J'aimerais parler ce matin sur « Quand frappe l'adversité ?» Dans 1 Rois, chapitre 17, verset 17, il est écrit « Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils ? Même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant !» Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. » Il nous arrive tous de passer par l'adversité, les vents contraires, les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu et la vie n'est pas linéaire. La vie, en fait, est une succession d'obstacles que nous devons franchir. Et une fois qu'on a dépassé une adversité, on a un temps de repos, un temps de calme, mais une autre adversité survient. Ainsi, la vie constamment nous confronte à des temps d'adversité. Et cela ne s'arrête jamais. Personne ce matin ne peut dire « Maintenant, je suis arrivé à un tel niveau que je n'aurai plus d'épreuves. Maintenant, je suis arrivé à un tel niveau que je ne rencontrerai plus d'adversité. Il n'y aura plus d'obstacles. Je ne serai jamais malade. Je ne connaîtrai jamais une difficulté. Ce n'est pas possible. » Même les chrétiens traversent l'adversité. La question que l'on peut se poser ce matin, si tout le monde est sujet à l'adversité, c'est comment allons-nous traverser l'adversité ? Car elle sera tôt ou tard sur notre route. Est-ce que nous allons rejeter Dieu ? Est-ce que nous allons quitter l'Église ? Est-ce que nous allons abandonner les frères et sœurs ? Est-ce que nous allons passer par l'incompréhension ? Ou est-ce que nous allons nous attacher fermement au Seigneur, quand bien même nous ne comprenons pas ce qui nous arrive ? On va voir dans ce récit ce qui s'est passé avec cette femme qui a connu une violente adversité dans sa vie. Cette femme qui était déjà veuve, donc c'est une femme qui avait beaucoup souffert. Elle avait déjà perdu son mari. C'est déjà quelque chose de difficile à vivre. Mais l'adversité a continué. Puisque maintenant c'est son fils qui est atteint. Pourtant c'est une femme qui est croyante. Ce n'est pas une personne qui ne connaît pas Dieu, ce n'est pas une personne éloignée de Dieu, c'est une personne qui a cru en Dieu, qui a mis sa confiance en Dieu. Elle a même accueilli un homme de Dieu chez elle qui s'appelle Élie, qui est un prophète de Dieu. Et elle a vécu un miracle extraordinaire. Alors que c'est un temps de famine et qu'il y a une sécheresse complète sur le pays, Élie a été conduit chez cette femme et il lui a demandé de lui donner à boire et de lui préparer un gâteau, mais elle n'avait que peu de farine, un tout petit peu de farine et un tout petit peu d'huile. Et elle a dit, mais si je prépare quelque chose pour toi, vois, ce sera le dernier repas et nous n'aurons plus rien à manger et nous mourrons. Et donc, elle a été éprouvée dans sa foi. Et Élie a continué, fais confiance à Dieu, prépare ce que tu as dit pour moi, et tu verras, la farine ne manquera point et l'huile qui est dans le pot ne diminuera point. Il y a eu un miracle. La farine s'est multipliée, l'huile s'est multipliée, de sorte que pendant des mois, des années, elle a pu vivre de ce miracle. Elle sait que Dieu peut tout faire. Elle l'a vu de ses yeux. Mais aujourd'hui, elle traverse une adversité qu'elle n'avait pas pensé traverser un jour. C'est que son fils est touché. C'est son fils qui est touché par une maladie. Et là, Quand on traverse l'adversité, souvent, on ne comprend plus rien. Parce qu'on vient de vivre un temps de bénédiction, on a vu la main de Dieu agir, on croit que Dieu peut tout faire, et tout d'un coup, patatras, tout s'effondre, et on est touché par un autre côté. Son fils tombe malade. Et tant qu'il était malade, nous pouvons dire qu'il y avait encore de l'espoir. Et elle a prié, elle a prié, elle priait jour et nuit, elle priait pour que son enfant soit guéri. Et c'est normal, c'est ce que nous faisons quand nous sommes atteints. Mais plus elle priait, plus la situation se dégradait. La respiration diminuait, de sorte qu'il avait tellement de peine à respirer, et elle priait, elle priait. Est-ce que ça vous est arrivé déjà de prier pour une situation, et plus vous priez, plus la situation se dégrade? Ça nous est tous arrivé. Moi, je l'ai vécu lorsque Laurence est tombée malade, qu'elle a été atteinte de 3 maladies, donc il n'y avait pas de solution médicale. Eh bien, plus on priait, plus la situation, pendant 3 ans, elle ne faisait que se dégrader. Eh bien, ce n'est pas facile de prier quand la situation se dégrade, alors que nous savons que Dieu est tout-puissant et qu'il peut guérir à tout instant. Et nous sommes éprouvés dans la durée et nous sommes éprouvés dans la foi. Mais à un moment donné, Dieu intervient en son temps. Et ça, nous ne pouvons pas le maîtriser. Et quand Dieu est intervenu pour Laurence, c'est lui qui a déterminé le temps de son intervention. Mais nous devions continuer à prier dans la foi jusqu'à l'intervention de Dieu. Ça, c'est notre part. Même si, en apparence, nous ne voyons rien, même si les choses continuent à se dégrader et que nous n'avons pas de petits signes encourageants. Vous savez, j'ai remarqué souvent que nous, les chrétiens, on marche aux signes. Quand on a un petit signe, alors là, même un tout petit signe, ça nous donne des ailes. Mais quand on n'a aucun signe, ça nous fait plonger au 4e sous-sol. On marche aux signes. En réalité, est-ce que la Bible nous demande de marcher aux signes? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Nous devons marcher, non par la vue, mais par la foi. Et nous cherchons un signe par la vue, une petite amélioration, un petit élément qui va nous dire « Dieu est en train d'agir ». Ne serait-ce que 1 millimètre, ça nous suffirait. Mais quand ça ne fait que décliner, 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 eh bien la foi, elle commence à décliner, décliner, décliner avec. Or, nous devons apprendre à ne pas nous laisser, pas nous attacher à ce que nous voyons, mais à croire fermement ce que Dieu dit dans sa parole. Ça, c'est un véritable exercice auquel nous avons un petit peu de mal à le faire régulièrement, mais Dieu va nous aider à le faire. Donc, tant que l'enfant était malade, elle priait, mais elle a prié jusqu'au dernier souffle de l'enfant, et là encore, elle croit, mais voilà qu'après son dernier souffle, l'enfant, il meurt dans ses bras. Et là, on pourrait dire que sa foi, elle en prend un grand coup, et qu'elle est en train de se demander si Dieu existe vraiment, parce que si Dieu existe, pourquoi n'a-t-il pas répondu à sa prière, pourquoi n'a-t-il pas guéri cet enfant? Et le peu de foi qui lui reste a dû s'effondrer à ce moment-là. Mais comment croire en Dieu quand votre enfant, il meurt dans vos bras et que vous avez prié pour qu'il soit guéri? Comment continuer à faire confiance en Dieu dans des telles circonstances? On dira que c'est au-delà de nos limites, au-delà de nos capacités, parce que c'est toujours plus facile de croire quand la farine et l'huile se multiplient, quand on est dans la bénédiction. Mais c'est très difficile de continuer à croire quand on est dans l'adversité. Et pourtant, nous avons le même Dieu quand nous vivons le miracle et quand nous traversons l'adversité. Mais nous changeons d'attitude parce que nous avons du mal à croire quand tout va mal. Et cette femme n'arrive plus à croire. Alors, elle va connaître l'amertume, c'est le deuxième point. Cette femme se tourne vers le prophète Élie. Elle vient avec un cœur chargé de souffrance, chargé de pensées contradictoires, oui. Dieu est venu dans ma maison, il y a eu cette bénédiction de l'huile, mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'huile? Qu'est-ce que c'est que de l'huile et de la farine par rapport à un enfant? Elle préfère garder son enfant et ne pas avoir ni huile ni farine. Et elle est dans ce débat contradictoire et finalement, elle est en train de penser en elle-même, mais si cela m'arrive, c'est que j'ai certainement péché quelque part et que Dieu me punit du péché que j'ai accompli. Parce que cette femme est païenne. Cette femme n'est pas du peuple de Dieu, c'est Jésus qui l'explique dans Luc 4, 25. Elle dit qu'il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. C'est cette femme dont nous parlons, cette femme veuve. Donc, Élie n'a pas été envoyé envers une Israélite, une femme du peuple de Dieu. Élie a été envoyé vers une païenne pour montrer que Dieu voulait faire grâce aussi à ce peuple qui n'était pas le peuple de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, elle ne commence pas dans le Nouveau Testament. La grâce de Dieu, vous la voyez déjà dans l'Ancien Testament. Elle va pleinement se développer en Christ, mais elle existe déjà dans la loi. Car Dieu a fait grâce à de nombreux païens dans l'Ancien Testament. Mais cette femme se sent coupable du fait qu'elle n'appartient pas au peuple de l'Alliance. Elle dit, mais si Dieu a repris cet enfant, c'est parce que je suis païenne. C'est parce qu'il y a des péchés qui n'ont pas été pardonnés. En fait, elle ne comprend pas la grâce. Elle n'accepte pas le don gratuit quand il est dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Eh bien, c'est la preuve que nous n'avons aucun mérite et que nous recevons la grâce comme un cadeau. Donc, dans sa souffrance, elle ne comprend pas la grâce. Elle accuse même Élie en disant, mais Élie, c'est de ta faute si cet enfant est mort, finalement. Elle accuse Élie d'être responsable. Elle en veut à Dieu de souffrir autant. Et quand nous passons par l'adversité, quelles pensées nous viennent à l'esprit? Pourquoi Dieu a-t-il permis? Pourquoi suis-je malade? Pourquoi Dieu m'a-t-il oublié? Pourquoi suis-je seul? Pourquoi mon mari m'a-t-il quitté avec cette femme? Pourquoi ma femme m'a-t-elle quitté avec cet homme? Psaume 13, regardez, c'est le psaume des jusques à quand. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Psaume 13, 2. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ce sont des questions qui viennent à notre esprit. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Et on pourrait continuer les jusques à quand avec tout les questions que nous avons à adresser au Seigneur, car dans l'adversité, nous demandons pourquoi, jusqu'à quand, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, et nous vivons des blessures que personne ne peut soulager. La Bible nous rapporte l'histoire d'une femme qui était stérile, qui s'appelait Anne, et chaque année, elle montait au temple avec son mari Elkana, et Elkana avait une deuxième femme qui s'appelait Pénina, qui elle pouvait avoir des enfants. Et Pénina, elle en profitait à chaque fois qu'ils allaient en pèlerinage pour faire du mal à Anne en lui disant « Voilà, moi j'ai des enfants, toi Dieu t'a puni, tu n'auras jamais d'enfants, tu es stérile. » Et Anne souffrait à la fois de ne pas avoir d'enfants, plus des invectives de Pénina sur sa vie. Alors, elle s'est tournée vers Dieu et elle pleurait et elle ne mangeait pas. Mais son mari qui voulait la soulager, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, mais Anne, mais pourquoi pas? Mange, mange. Est-ce que je ne vaux pas, moi, pour toi, plus que 10 fils? Ça veut dire, ce n'est pas la peine de prier pour avoir des enfants. Je suis là, même si tu n'as pas d'enfants, tu n'as qu'à être contente comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est un argument qui a touché le cœur d'Anne? C'était pas très fin comme argument, finalement. Ce n'était pas très bon comme argument. Et finalement, Anne, elle n'était pas comblée par cette parole et elle a cherché auprès de Dieu dans la prière. Elle priait tellement que le sacrificateur croyait qu'elle avait bu du vin, qu'elle était ivre. Mais elle déversait son cœur devant Dieu. Et enfin, quand Élie a eu la révélation qu'elle n'était pas ivre, il lui a donné une parole de Dieu, dans un an, tu auras un enfant. Et la parole de Dieu s'est accomplie. Et quelquefois, il nous faut persévérer dans la prière, alors que les autres nous dénigrent, alors qu'on nous dit du mal, alors qu'on nous dit ce n'est pas possible, ça n'arrivera jamais, eh bien nous devons être des chrétiens persévérants dans la foi et dans la prière. Car dans l'adversité, on voit tout en négatif. Tout est perdu. Mon espoir est parti. À quoi bon continuer de vivre? Ou alors je ne m'en sortirai jamais. Ou comme Anne, on lui disait « Tu ne pourras jamais avoir d'enfant ». Et elle pouvait arriver à se convaincre. Eh bien, c'est vrai, je n'aurai jamais d'enfant. Tout le monde me l'a dit, ce n'est pas possible. Oui, c'est ce que les hommes disent, mais nous voulons écouter ce que Dieu dit. Car si Dieu a dit, tu auras un enfant, eh bien l'enfant, il arrivera. Ça, c'est la puissance de Dieu. Quelqu'un dit peut-être, je serai toujours seul. Ma famille m'a abandonné. Mais avec Dieu, nous ne sommes pas seuls. Car David a dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Et notre famille, elle est là. Nous sommes des frères et sœurs. Et notre Père, c'est Dieu. Et nous avons une famille partout dans le monde. Et si bien, si nous allons dans une autre ville, nous allons retrouver une autre famille. Ils ne seront peut-être pas aussi sympathiques qu'à Toulouse-Ouest, c'est vrai. Mais bon, ce sera la famille de Dieu quand même. Gloire à Dieu, hein, pour la famille de Dieu qui est sur toute la terre. Alors ne dites pas « je suis seul ». Ne dites pas « on m'a abandonné ». Mais dites « l'Éternel me recueillera ». L'Éternel est mon Père. L'Éternel m'a donné une nouvelle famille. Et voilà la famille de Dieu à laquelle j'appartiens. Et je bénis Dieu pour cette famille. Troisième élément, c'est la foi en action. La foi d'Élie. Élie comprend la réaction de souffrance de cette femme veuve. Mais il va adopter une attitude diamétralement opposée à elle. C'est-à-dire que lui va faire le choix de croire dans une situation impossible. Il va faire le choix de croire. J'utilise bien le verbe « choisir ». Car la foi, ce n'est pas un sentiment. La foi, c'est un choix, c'est une décision que nous prenons. Et nous pouvons décider de faire confiance à Dieu alors que tout nous dit « ce n'est pas possible ». Mais c'est une décision à prendre. J'aimerais pouvoir dire qu'un chrétien, une fois que vous avez accepté Christ, alors vous ne serez jamais malade, que vous ne rencontrez jamais plus de problèmes, vous aurez toujours de l'argent dans votre compte en banque et vous aurez toujours un travail. Vous ne connaîtrez jamais la NPE. Maintenant, ce n'est plus la NPE d'ailleurs, c'est Pôle emploi. Pardon Patrick, il travaille à Pôle emploi. Pôle emploi. Hein. Bientôt, ils vont être au chômage, Pôle emploi, si jamais tout le monde trouve du travail. Alors, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, pourquoi ? Parce que les chrétiens traversent aussi l'adversité. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que nous pouvons traverser l'adversité en choisissant de faire confiance à Dieu. Ça, c'est une décision que nous pouvons prendre. Vous pouvez décider de croire, même quand tout est contre vous. Même si vos amis vous ont quitté ou vous dénigrent, même si vous ne savez pas comment vous allez faire, vous vous dites « mais je ne vais jamais arriver à payer cette somme, les factures sont trop nombreuses », ou le médecin vous a donné les mauvaises nouvelles et vous dit « voilà, ça sera comme ça pour toujours, vous ne serez jamais guéri, on va essayer de vous calmer, de vous soigner comme on peut ». Eh bien, la première réaction, c'est peut-être le doute et de dire « Dieu, voilà, ça me tombe dessus, tu m'as abandonné ». Mais nous devons nous ressaisir et choisir de croire. Pourquoi ? Parce que le doute ne produit que la mort. Le doute ne vous apportera rien. J'ai cité ce texte de Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Ah, Jacques insiste sur la nécessité d'enlever de notre esprit toute forme d'incrédulité. Car celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà comment nous devons croire. Nous ne devons pas croire en doutant, mais nous devons croire en faisant confiance à Dieu. C'est d'abord un choix, je décide de croire, et en même temps je rejette l'incrédulité. Et je place toute ma confiance en Dieu. Quoi qu'il arrive, c'est lui qui dirigera mes voies. Si je ne procède pas ainsi et que je laisse le doute remplir mon cœur, ma prière ne sera pas entendue de Dieu, car ce texte dit qu'on est semblable comme le flot de la mer. N'imaginons même pas que nous allons recevoir une réponse à notre prière. Qu'il ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. Donc le doute exclut. Quatrième élément, la chambre haute. Car une fois qu'Élie a récupéré l'enfant mort, il va le transporter, donc il le prend des bras de la femme, et il l'emmène dans la chambre haute qui est pour lui le lieu secret, c'est-à-dire le lieu de communion avec Dieu, le lieu de la prière, le lieu où tout est possible à celui qui croit. Il l'amène sur le lit et c'est là qu'il va prier. C'est un petit peu comme ce matin si le Seigneur nous dit « Amène ton désespoir, amène ton impossibilité dans le lieu secret et là tu le places devant Dieu et là tu pries ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Apporte ton espoir mort dans la présence du Seigneur et lui, il agira en son temps pour sa gloire et il va manifester sa puissance. Quand il n'y a plus d'espoir, il y a encore de l'espoir pour le croyant. Psaume 25:5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es de temps en temps mon espérance. C'est comme ça ? Ah bon. Tu es quelquefois mon espérance. Non plus. Tu es toujours. Est-ce que c'est vrai pour nous ce matin ? Amen. Ou est-ce que, quand ça va mal, nous décidons de douter ? Si nous disons « tu es toujours mon espérance », c'est facile de le dire, mais c'est beaucoup plus difficile de le vivre dans l'épreuve. Et c'est pourquoi nous devons nous appliquer à dire la parole de Dieu et non pas dire ce qui nous passe par l'esprit, qui est contraire à la parole de Dieu, c'est-à-dire « je n'y arriverai jamais, la situation est bloquée, il n'y a plus d'issue ». Voilà. Au contraire, on peut dire « tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance ». Et quand on dit la parole de Dieu, on confesse la vérité, dans la foi bien sûr, ce ne sont pas des paroles magiques, nous devons y associer la foi et croire que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Alors, nous remettons tout cela entre les mains de Dieu et Dieu est au contrôle et il agira en son temps. Alors, nous retrouvons la chambre haute à plusieurs reprises dans la Bible. Par exemple, Jésus, le soir de la Pâque, la dernière Pâque, il a rassemblé les disciples dans une chambre haute et il a annoncé sa mort et sa résurrection. Un lieu de résurrection. La chambre haute, c'est aussi un lieu de prière où les 120 ont persévéré après l'ascension du Seigneur. Ils ont persévéré 10 jours dans la prière dans la chambre haute. C'est un lieu de visitation du Saint-Esprit. Après ce temps de prière, il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Ils se sont tous mis à parler en d'autres langues. On est visité dans la chambre haute. C'est un lieu de résurrection, c'est un lieu de prière, c'est un lieu de visitation. Et puis, cette femme qui s'appelait Dorcas, qui faisait des vêtements, des tuniques pour les vendre, pour les donner à des pauvres ou pour les vendre au profit des pauvres, qui faisait beaucoup de bonnes œuvres pour le Seigneur et qui est morte. Et on a appris que Pierre était dans la ville de Lydde à côté. Ils l'ont fait venir jusqu'à Joppé où s'était passé cet événement. Et alors qu'il est entré dans la chambre où se tenait Dorcas, il a prié Dieu, qui est le Dieu de la vie, de la résurrection. C'était la chambre haute, encore une fois. Et il a prié pour que l'esprit de cette femme retourne en elle, que son âme revienne en elle. Et Dieu a ressuscité encore cette femme. C'est un lieu de résurrection. La chambre haute, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de transformation, c'est un lieu de résurrection. Est-ce que vous aussi, vous avez une chambre haute ? C'est-à-dire un lieu où vous pouvez aller dans la présence de Dieu pour prier. Est-ce que vous avez cela ? C'est important de le trouver, d'avoir un lieu à part où nous pouvons prier le Seigneur, déposer nos soucis, déposer nos échecs, peut-être déposer ces impossibilités, ces choses qu'on n'arrive pas à régler, et faire confiance à Dieu, c'est-à-dire décider, on l'a dit, choisir de croire, mettre sa foi, tu es toujours mon espérance, et ensuite abandonner au Seigneur qui prendra soin de cette situation. Voilà la démarche d'Élie. Il fait monter la prière de la foi, c'est le dernier point, cinquième point, la prière de la foi. Pourtant, la situation est quand même désespérée. Et quand la situation est désespérée, on a tendance à baisser les bras. Eh bien, Élie nous montre le chemin de la prière de la foi. Et il se dit, non, c'est vrai que l'enfant est mort, c'est vrai qu'il n'y a plus d'espoir, et si on avait pu avoir l'attestation, il était bon pour aller au cimetière, il va être enterré, c'est fini. C'était signé, c'est fait, il n'y a plus de retour possible. Mais nous avons encore la prière de la foi. La prière de la foi, c'est quand tout est impossible. Élie invoque l'Éternel. Et c'est là que l'histoire va basculer. Si nous n'avions pas quelqu'un comme Élie, si nous n'avions pas des hommes et des femmes de foi, des hommes et des foi qui disent non, on nous a dit c'est pas possible, ça n'arrivera jamais, mais nous allons invoquer l'Éternel, eh bien les choses ne bougeraient jamais. Il nous faut à un moment donné être dans la foi et dire non. Nous n'allons pas laisser ces choses s'installer, nous allons réagir, nous allons prendre une autre décision et nous allons faire la prière de la foi. Nous savons que notre vie n'est pas entre les mains des hommes. Il y a le psaume 56, verset 4 qui dit ceci. « Quand je suis dans la crainte, en toi, en Dieu, je me confie. Je me glorifierai en Dieu en sa parole. » Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? Des hommes. Merci Seigneur pour l'intelligence qu'il a pu donner au médecin, au chirurgien, peut-être on va être opéré, que Dieu bénisse le chirurgien. C'est Dieu qui lui a donné ses capacités. Mais notre main, en définitive, derrière le chirurgien, il y a la main de Dieu qui agit. Et heureusement que Dieu est là et que Dieu a donné toutes ses capacités. Mais nous nous confions en Dieu qui dirigera la main du chirurgien. Nous nous confions en Dieu qui dirigera le patron pour telle ou telle orientation, pour telle ou telle évolution de carrière. Et peut-être même si on est licencié, eh bien Dieu permettra que nous allions dans une autre entreprise, dans une autre orientation. C'est Dieu qui dirigera. Et nous pouvons dire « Merci Seigneur en toutes choses, parce que ton plan s'accomplira ». Peut-être on croit que c'est défavorable, et quelquefois un événement négatif nous permet de rebondir d'une manière beaucoup plus favorable, parce que Dieu l'a permis. Et nous, on dit « Mais pourquoi ça m'est arrivé ? Et pourquoi j'ai été rejeté de cette entreprise ? Et pourquoi on ne m'a pas donné le poste ?» Oui, mais c'est parce que Dieu nous voulait dans un autre endroit. Et il fallait que le patron il dise « Non, c'est fini, monsieur, vous allez ailleurs. » Et ailleurs, on va trouver la bonne porte, etc. Sauf que nous, on ne comprend pas ces choses et qu'on analyse toutes les malheurs qui nous arrivent comme des catastrophes, comme si ça nous tombe sur la tête. Mais en fait, c'est Dieu qui est en train d'agir. En fait, il y a un verset qui dit que même Dieu dispose favorablement à notre égard, même ses ennemis. C'est dans le Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alors des ennemis vont se dresser contre vous, peut-être on va vous faire des obstacles, mais Dieu va diriger en tout cas les choses favorablement à votre égard. Et ça, si vous marchez dans les voies de Dieu, bien sûr, hein, ce n'est pas automatique. Il faut encore que nous, chrétiens, nous prenions l'engagement, la ferme décision de suivre le Seigneur quoi qu'il arrive. Dieu écoutera la prière de son serviteur. Lorsque Élie va faire monter cette prière pour cet enfant, la Bible dit que Dieu écouta la voix d'Élie. Il est dit au psaume 6, « L'Éternel entend la voix de mes larmes. » Et psaume 34, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Soyez assurés que Dieu entend nos prières. Et ce n'est pas en vain que nous faisons monter vers lui nos requêtes, notre intercession, nos supplications, mais lui-même agira au temps convenable. Alors ne baissons pas les bras, frères et sœurs. Peut-être quelqu'un ce matin passe par l'adversité. Mais je dirais qu'elle peut surgir tôt ou tard, d'une manière tout à fait inattendue. Vous voyez, dans l'histoire que nous avons méditée, c'est arrivé par le biais de son enfant, c'est-à-dire ce qu'elle avait de plus cher sur cette terre. Son enfant qui a été atteint de graves maladies, et qui est mort dans ses bras. L'adversité peut frapper de tous côtés au moment où on s'y attend le moins. Cette femme venait de vivre une bénédiction extraordinaire. Elle avait accueilli le prophète Élie chez elle. Elle avait fait cette chambre haute pour qu'il soit bien. Elle avait vécu le miracle de la farine et de l'huile qui se multiplient. Il n'y avait aucune raison qu'il se passe quoi que ce soit. Elle pourrait penser, ça sera comme ça tous les jours jusqu'à ma mort. Je serai dans cette vie d'abondance et de bénédiction sans épreuve, non ? L'adversité survient tout d'un coup, on ne le sait pas, on ne comprend pas. Elle a été gagnée par le désespoir, par l'amertume un temps, envie de tout abandonner. Mais elle s'est tournée vers l'homme de Dieu et a supplié pour qu'il se passe quelque chose. Et Dieu et Élie, comme Élie, nous pouvons faire le choix de croire. Ça, c'est notre décision. Comme Élie, nous pouvons aller dans la chambre haute, le lieu secret où nous prions avec Dieu. Comme Élie, nous pouvons invoquer là l'Éternel qui entend nos prières et qui vient au secours de ses enfants. On va prier un instant. Merci Seigneur encore pour ta parole. Nous croyons que tu es le Dieu de la vie, qui communique la vie à ce qui est mort, qui ouvre encore les yeux des aveugles, qui guérit les malades, qui restaure les cœurs brisés, qui délivre ceux qui sont sous l'oppression des puissances de ténèbres, parce que tu es un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Ce matin, nous choisissons de croire et nous rejetons tout ce doute, cette incrédulité qui conduit à l'amertume, qui conduit au rejet de ta parole, qui conduit à la désobéissance. Mais nous voulons, Seigneur, au contraire, remplir notre cœur de foi et dire « Oui, Seigneur, ce que tu dis, tu l'accomplis. Seigneur, ta parole est certaine. Tu es toujours mon espérance, quand bien même Le désespoir vient frapper à ma porte. Quand bien même des pensées de se supprimer viennent, au nom de Jésus, nous les lions, nous les chassons et nous disons « Tu es toujours mon espérance, tu es toujours le Dieu de mon salut, tu es toujours le Dieu de ma victoire et je me confie en toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. »